Lecteur d'Asie, la petite pastille estivale de mes lectures pour le prix littéraire du Musée Guimet. Depuis son balcon, Chitraleka observait la scène qui se déroulait devant chez elle, tandis que s'échappaient de sa bouche d'épais rubans de fumée semblables aux cirrus qui s'accumulaient lentement dans le ciel. Son choix de cigarettes, de celles qu'affectionnaient les domestiques, les coulis et les ouvriers en bâtiment de Gangtok, déconcertait autant son médecin que sa façon de les fumer. Chitraleka tirait sur le rouleau de tabac en le tenant entre son index et son pouce courbé. Cette technique était certes considérée comme peu raffinée, et les brins de tabac du bidi étaient sans doute plus nocifs que ceux d'une cigarette ordinaire. Mais c'était ainsi que Chitraleka préférait déguster son poison. Comme l'anneau qui se balançait entre ses narines et étirait son septum de peu plus de 70 ans, les bidis symbolisaient l'ordinaire. Confrontée aux nombreux changements qui se préparaient autour d'elle, Chitraleka trouvait un certain réconfort dans les objets familiers. Ses petits-enfants, qui vivaient dans différents pays, dont elle pouvait à peine prononcer le nom et qu'elle n'avait aucune intention de visiter, seraient bientôt là pour son chorassi, son 84e anniversaire, dont les préparatifs battaient leur plein. Dans le jardin qui entourait son cottage, régnait une grande effervescence. Le prêtre, qui n'était pas satisfait de la longueur des bambous qu'on s'apprêtait à utiliser pour fabriquer le four sacré, exprimait son mécontentement d'une voix nasillarde, tout en frappant le sol de sa carne. Agacé par le prêtre, l'eunuque trangeur qui balayait l'allée pour aider Chitraleka à se détendre, plus que pour contribuer véritablement au remue-ménage environnant, exprimait son dédain en chantant bruyamment faux afin de couvrir le radotage du vieil homme. Quelques peintres, inconscients pour la plupart de leur désaccord, appliquaient paresseusement des coups de pinceau verticaux qui se terminaient souvent en zigzag sur les murs. Chitraleka n'aimait pas leurs nouvelles apparences. La peinture rouge, écaillée que les ouvriers essayaient de recouvrir, était trop foncée pour disparaître sous une couche de blanc. Il en faudrait une deuxième, voire une troisième. Une jeep, apparue quelques jours trop tôt en cahotant dans l'allée, venait de livrer 1 000 000 d'œillets d'Inde, que l'eunuque allait bientôt devoir enfiler en guirlande. « La compétence fait cruellement défaut par ici, gémit le prêtre brahman. Nous passons tous trop de temps à parler. » « Tiens donc, le brahman pense que nous passons trop de temps à parler ?» s'impatienta l'eunuque. « C'est un brahman qui pense que nous parlons trop. Bientôt, il nous reprochera de manger trop de sucre. »« Il est inutile d'écouter les personnes en ton genre, prasanti, » répliqua le prêtre en levant ses yeux plissés vers la terrasse dans l'espoir de rencontrer le regard de Chitraleka. Sa tentative fut vaine, car celle-ci détourna la tête. « Vous ne faites que parler, parler, parler. » « Oh, mais je chante et je danse aussi !» s'écria Prasanti. « Je chante, je danse et je nettoie pendant que vous restez planté là à donner des ordres. »« N'oubliez pas que je suis aussi brahman, Banditji. Tu devrais être en train de chanter et de danser dans les rues avec les gens comme toi. Sans la générosité d'Ama, tu n'aurais pas de maison. Et toi, sans la bonté d'Ama, vous n'auriez pas une roupie pour remplir cette grosse bedaine, Banditji. Nous sommes pareils, vous et moi. » Le prêtre leva de nouveau les yeux vers Chitraleka. La vieille femme savait qu'il attendait qu'elle intervienne, mais ces échanges l'amusaient beaucoup trop pour qu'elle y mette un terme. La vieille femme ne cessait de dormir depuis son hospitalisation. Devinez combien d'argent j'ai accumulé ? Demanda Prasanti. Le regard de Chitraleka pétilla légèrement. 20 000 ? Demanda-t-elle avec effort. Plus. 30 ? Plus. Encore plus ? Est-ce que tu as volé de l'argent ? Non. Bhagwati et Manasa m'ont donné 4 000 roupies chacune. Agastya 10 000, Rutwa 2 000, mais je les ai refusées. Menteuse. Comme si tu étais capable de refuser de l'argent. Je vous jure, je n'ai rien accepté de sa part. Idiote. Personne ne décline un don d'argent. Bon, vous avez raison, j'ai accepté le sien. Prasanti gloussa. Alors, combien possèdes-tu en tout ? 60 000 roupies, dit Prasanti en espérant que Chitraleka ne s'interrogerait pas sur l'origine de la moitié de sa fortune. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, j'aimerais le déposer à la banque. Tu as raison. La somme qui se trouve sur ton compte a dû augmenter. Quel compte ? Je t'en ai ouvert un quand tu es venu vivre chez nous. Vous voulez dire que je possède encore plus d'argent ? Oui, tu es une femme riche, Prasanti. Amma toussa violemment, elle était encore faible. Plus que 60 000 roupies ? Oui, bien plus. Combien ? Avec cette somme, tu pourrais te faire construire un cottage quelque part si tu finissais par te laisser de moi. Mais cette maison est la mienne. Pourquoi m'en faudrait-il une autre ? Je sais bien que tu n'en as pas besoin, va. Là-dessus, Amma s'assoupit. Au rez-de-chaussée, le téléphone se mit à sonner. Amma ! S'écria Prasanti troublé. Manasa vient d'appeler. Est-ce qu'elle est arrivée à Katmandou ? Chitraleka se leva lentement. Oui, mais elle revient. Elle se trouve à Rangpo. Elle voulait que je lui fasse cuire du riz. Pourquoi revient-elle ? Elle ne me l'a pas dit. Je savais qu'elle changerait d'avis. Que voulez-vous dire ? Chitraleka ne répondit pas. Aide-moi à monter sur la terrasse, dit la vieille femme en faisant des petits pas. Ensuite, tu iras faire le ménage dans mon bureau. Et tu retireras tous les portraits accrochés au mur. Pourquoi ? Prasanti soutenait toujours le corps frêle de Chitraleka. Contente-toi de faire ce que je dis. D'accord. À leur place, tu accrocheras le diplôme de Manasa, le cadre qui est posé sur le rebord de la fenêtre du salon. Très bien. Et sur la table, tu mettras la nappe la plus sale que tu trouveras. Qu'elle soit vieille, dégoûtante et toute trouée. Dépêche-toi, j'ai hâte de voir son affreux visage se crisper. Dehors, le ciel était bleu et le soleil brillait de toutes ses forces. Bientôt, il ne percerait les nuages qu'avec réticence. Le Kanchenjunga était partiellement visible. Sous les yeux de Prasanti et de Chitraleka, les maçons posaient les fondations du 7e étage du nouvel hôtel. Le bruit des marteaux, des tamis, des maillets, du sable, du ciment, des briques, des perches en bambou et du mortier créaient un fracas curieusement harmonieux. Bien que son médecin lui ait interdit de fumer, Chitraleka tirait sur son bidi.
जहां कंचन जंघा हसी ये हो हमरो धाना को देशा अपवन हो प्यारो सिक्किम जहां बच्चा पिस्ता रंगी जहां कंचन जंघा हसी बक्सा टिस्टा रंगी जहां कंचन जंघासी.
Vous venez d'écouter la première et la dernière page de Fuir et revenir de l'auteur indien Prajwal Parajuli, paru aux éditions Emmanuel Collat en 2020. Alors, ce roman est original à plus d'un titre. Tout d'abord, il vous fera découvrir le Sikkim, cet ancien royaume rattaché à l'Inde en 1974 et qui se trouve coincé entre le Népal, le Bhoutan et le Tibet. Une situation géographique originale et particulièrement bien utilisée par l'auteur. Vous ferez la connaissance de la famille népanaise, riche famille de Gangtok, la capitale de l'État, qui pendant les 3 jours de la fête religieuse de Tihar va se déchirer et régler ses comptes comme dans un très bon film de Bollywood. Entre Bhagwati, la petite fille qui s'est mariée avec un intouchable bhoutanais, Agastya, le frère aîné qui cache son homosexualité, ou Manasa, diplômée d'Oxford et qui regrette sa carrière gâchée et son mariage arrangé, Autre originalité de Prajwal Parajuli, il fait intervenir dans son intrigue la caste des Jijra, la communauté des personnes transgenres en Inde, avec le personnage de Prasanti, une servante haute en couleur et au passé tragique. On peut regretter dans ce livre un trop-plein de dialogues au détriment de la narration, ou bien une fin qui laisse un sentiment d'inachevé, mais Fuir et revenir est un roman très intéressant par son cadre et ses personnages. Très simple à lire, il est une bonne porte d'entrée dans la littérature indienne. À vendredi prochain pour une nouvelle lecture d'Asie. Bon été, bonne lecture et à bientôt.